Bonjour et bienvenue à Dive In With Me, une émission de la Fondation Aimée dans laquelle nous parlons des bienfaits de la musique dans toutes les différentes langues du pays. Merci à Radio Ara de nous donner l'opportunité de présenter les différents avantages de la musique sur leurs ondes. Aujourd'hui, nous rencontrons Marianne Blaillot, déléguée générale et fondatrice de l'association Orchestre à l'école. Cette association a mis en place un dispositif cherchant à faciliter le processus de création des orchestres dans les écoles par une aide financière et administrative en France et porte de nombreux projets sur tout le territoire français. Bonjour madame, ravie que vous soyez là aujourd'hui avec nous.
Merci de me recevoir.
Alors nous arrivons directement à la première rubrique qui est le Sound Check-in, où nous demandons à tous nos invités leur musique favorite du moment. Ce peut être un orchestre, un groupe, un musicien ou un style, illustré par une chanson qu'on fait ensuite écouter à nos auditeurs. Alors, quelle est votre musique du moment?
Donc moi, c'est un compositeur que je vais vous proposer. C'est Étienne Perruchon, avec lequel l'association a monté de nombreux projets, qui a composé pour les enfants. Et donc, je vous propose d'écouter Dianoura.
Très bien, alors nous allons tout de suite écouter un petit extrait de Dianoura. Dans la rubrique Benefits of Music, nous allons parler donc plus concrètement de ce que vous faites au quotidien à Orchestre à l'école. Sur votre site, on lit que vous êtes une association aidant à la création d'orchestres dans les écoles, en aidant pour les parcs instrumentaux, pour les démarches administratives et divers coûts notamment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le début de cette initiative, sur vos motivations qui vous ont poussé à créer cette association et sur son fonctionnement aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Les orchestres écoles sont nés de la facture instrumentale, donc c'est-à-dire les fabricants d'instruments de musique qui voulaient développer la pratique instrumentale en France parce que seulement 2% des enfants pratiquaient un instrument de musique. Ça, c'était en 1999. On a lancé le dispositif Orchestre à l'école et en 2008, on a créé l'association parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait lever des fonds pour pouvoir développer le dispositif. Donc, c'est né du développement des orchestres, de la pratique instrumentale, mais en fait, ce qui fait que ça continue et que ça se développe, c'est parce que c'est un projet qui permet aux enfants de s'épanouir. C'est vraiment l'aspect social et éducatif qui prévaut sur l'aspect culturel, en fait.
D'accord. Et alors, comment ça se passe? C'est une initiative, une demande de la part des écoles, des élèves, des professeurs? Comment ça se passe concrètement?
La particularité d'Orchestre École, c'est que chaque orchestre en France, chaque orchestre école est un dispositif de territoire, un projet de territoire. Et c'est à chaque fois une école de musique qui se met en partenariat avec une école, un établissement scolaire et les collectivités territoriales et le luthier du territoire. Donc en fait, il faut que l'un de ses partenaires ait envie de monter un orchestre à l'école. Il nous appelle et là, on met tout le monde en lien et on explique toute l'organisation. En fait, on accompagne les porteurs de projets jusqu'à la mise en place de l'orchestre. Et donc, à la fois dans la recherche des financements, dans l'organisation pédagogique, on a 20 ans d'expérience en la matière. Et quand un porteur de projet nous appelle, il gagne 6 mois sur l'organisation de son projet.
Ah oui, d'accord. C'est quand même plutôt pratique. Et alors, pour les élèves participant à ces orchestres, est-ce que c'est sur une base de volontariat ou est-ce que c'est un projet qui est porté par exemple par un professeur ou par l'école plutôt?
Alors en fait, c'est souvent on prend une classe entière et les enfants ne sont pas forcément volontaires à la base pour faire orchestre à l'école. Et on prend cette classe entière parce que en fait, il faut revenir à l'objectif d'orchestre à l'école. C'est un projet qui permet à tous les enfants d'être à égalité dans une pratique et de réussir ensemble en collaborant au sein de l'orchestre, en fait. Donc, on prend la classe entière. Dans cette classe, il y a tous les profils d'enfants, que ce soit les profils scolaires, mais aussi les profils familiaux, sociaux, les enfants qui ont des handicaps. Enfin, voilà, on a un peu, en général, la mini-société au sein d'une classe. Et on part du principe que tous ces enfants vont réussir. On leur met un instrument dans les mains. Ils choisissent parmi les instruments disponibles pour l'orchestre. Et puis pendant 2 heures par semaine, une heure par pupitre, donc c'est-à-dire par petit groupe avec le prof d'instrument qui vient enseigner dans l'école, et une heure en orchestre, et ça 32 semaines par an et pendant 3 ans. Donc c'est un vrai projet de long terme à l'échelle d'un enfant, et c'est parce que tous les enfants sont dans le même projet et que dans l'orchestre on a besoin que tout le monde réussisse, qu'il va se créer une cohésion dans la classe, une entraide et parfois même une autodiscipline. Mais au travers de cette matière, hein, parce que c'est dans le temps scolaire, c'est probablement la matière dans laquelle ils vont le plus travailler sans s'en rendre compte, et parce que tout est basé sur le plaisir. Et donc au travers de cet orchestre, ils vont apprendre vraiment à se concentrer, à suivre les consignes d'un chef. Il y a aussi beaucoup de capacités cognitives qui sont mises en jeu, parce que prendre un instrument, sortir un son au même moment que les autres, et quand le chef le demande avec l'intensité qu'on demande, enfin voilà, c'est beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et qui forment l'enfant et qui va l'aider à réussir dans les autres matières. Donc il y a à la fois des compétences cognitives, il y a beaucoup de compétences sociales, beaucoup de respect qui s'installe et d'empathie, d'écoute. Et donc, en fait, c'est un projet qui va vraiment construire les enfants pour être des citoyens épanouis. Et évidemment, il y a la découverte culturelle, parce que on fait de la musique, on fait de la bonne musique avec l'exigence nécessaire pour que ça soit beau et que les enfants progressent. Et donc, ils découvrent tout un tas de répertoires. Ils découvrent aussi beaucoup de lieux culturels. Ils embarquent leur famille aussi dans le projet, puisqu'ils amènent les instruments chez eux et que les familles viennent les voir à chaque concert. Donc, c'est très, très complet comme projet.
Mmh. Wow. Et il y a une tranche d'âge spécifique pour les classes, ou est-ce que c'est très ouvert et tout le monde, tous les professeurs peuvent choisir de participer ?
Alors, c'est soit en école primaire, donc c'est-à-dire que en fait, dans le système français, c'est à partir du CE2, c'est-à-dire à peu près quand les enfants ont 8 ans, jusqu'au CM2. Et quand on est en collège, c'est en 6e ou en 5e, jusqu'à la 3e, c'est-à-dire en gros de 11 ans, 11-12 ans jusqu'à 15 ans ou plus tard. Donc voilà, c'est possible pour les deux tranches. Et puis on commence à avoir quelques orchestres en lycée, mais c'est plus marginal.
D'accord. Et donc en général, les élèves n'ont pas déjà un bagage musical derrière, c'est leur première expérience de la musique.
Souvent. C'est-à-dire que dans une classe, il est possible qu'un enfant qui apprenne déjà la musique, mais ça reste quand même marginal. Malgré tous les orchestres à école qui se sont montés, il y a quand même un faible pourcentage des enfants qui pratiquent un instrument de musique. Et donc, s'il y en a un, on ne va pas l'éliminer. Mmh. On le prend avec nous. Par contre, on lui fait changer d'instrument pour que tous les enfants soient à égalité. Mmh. Mais voilà, souvent, c'est une grande découverte. Et c'est quelque chose que les familles ne pensaient même pas, ne s'autorisaient même pas à rêver. Parce qu'on pense souvent que la musique, ce n'est pas pour nous. Mmh. Autant pour toutes les familles, ça paraît évident d'inscrire son enfant au foot sans connaître les règles du foot. La musique, c'est différent, parce qu'il faut faire travailler l'enfant quand il est inscrit en école de musique, en conservatoire, il faut l'accompagner dans l'apprentissage. Et donc là, tout se fait à l'école, même si l'enfant est amené à ouvrir son étui et à s'entraîner chez lui. Ils sont complètement pris en charge, et en fait, ce sont en général un orchestre à l'école, c'est à peu près entre 5 et 8 profs qui viennent du conservatoire dans l'école pour faire tous les instruments.
D'accord. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, il y a une pédagogie qui est un peu cadrée dans ces ateliers, ou bien c'est plutôt à la charge du professeur de choisir comment il va faire, le répertoire, etc.
Alors, en fait, c'est un projet collectif, déjà. Ce n'est pas un prof tout seul, mm-hmm. C'est un ensemble de profs, et c'est aussi une équipe de l'éducation nationale. Et donc, en fait, il y a un projet pédagogique qui est construit par toute l'équipe. Là, il n'y a pas de restriction. On peut choisir toutes les esthétiques musicales ou toutes les instrumentations. On a des orchestres très, très bizarres parfois, avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude de croiser ensemble. Et donc ça, c'est assez libre. Après, il y a plusieurs méthodes pédagogiques possibles. Le rôle de notre association, c'est aussi de guider les porteurs de projets en fonction de ce qu'ils veulent faire et puis de leur faire profiter des bonnes pratiques à droite, à gauche. Mais en général, les enfants commencent plutôt par l'oralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément tout de suite la partition devant l'enfant. Comme ça, ils écoutent, ils sont concentrés sur le chef et ils entendent ce qu'ils jouent et ce que jouent les autres. Et puis, surtout, comme on accueille aussi des enfants dans les orchestres à école, parfois qui sont dyslexiques ou qui ont des problèmes scolaires, l'idée, c'est de ne pas tout de suite leur ajouter un codage qui va leur compliquer la vie. Mais il existe des orchestres où on commence tout de suite avec la partition. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et une fois que les enfants commencent à apprendre les morceaux, souvent ça vient d'eux, parce que la mémoire étant limitée, quand on en connaît un morceau par cœur, deux morceaux par cœur, trois, on a envie après d'avoir un support pour pouvoir s'en souvenir. Et au moment où on leur présente le codage, comme on leur a dit quelle note ils jouaient et qu'ils l'ont compris en jouant, ça vient tout seul. Donc c'est vraiment une méthode assez différente de ce qui se passe en général en école de musique ou en conservatoire. Mais en fait, le plus important en réalité, c'est la bienveillance. C'est-à-dire de vraiment dire aux enfants, vous allez tous réussir. Ben, il ne s'agit pas que de le dire. Il faut aussi se mettre en posture de l'obtenir. Et donc, ça veut dire qu'on va plutôt toujours chercher à trouver ce qui fonctionne bien pour l'enfant et à le mettre en valeur. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut aussi qu'il ait un matériel pédagogique adapté. Et donc, parfois, dans un orchestre à l'école, on a vraiment une sur-mesure enfant par enfant. Il se peut que dans un même pupitre, par exemple, il y a trois enfants dans le pupitre flûte, il y en ait un qui fonctionne normalement, un qui est ultra doué, et l'autre qui a plutôt des difficultés, qui peut ne pas tenir en place, ne pas... Voilà. Eh ben, on va faire trois partitions différentes dans ce cas-là. Ils n'auront pas forcément la même chose à jouer. Et en fait, ce qui est important, c'est que chacun porte sa pierre à l'édifice, mais que la réussite soit collective. Et plus on avance, ben, plus on peut monter le niveau. Une fois qu'un enfant est remis dans la spirale de la réussite, il prend confiance en lui et on peut lui en demander plus. Et on se rend compte que finalement, on peut être très très exigeant avec ses enfants et que souvent c'est les profs qui ont tendance à se dire on peut pas faire aller plus loin, mais ceux qui osent, on s'aperçoit que les enfants vont très très loin. Et en fait on fait des projets artistiques. Le rôle de l'association, c'est aussi de proposer des projets, des collaborations avec des grands artistes dans des grandes salles ou dans des festivals. Et on amène parfois des enfants à un niveau absolument incroyable. Ben, en juin dernier, on avait deux orchestres à l'école qui jouaient avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et qui ont joué la symphonie en ut de Bizet, plus une création de Reinhard Wagner. Wow. Et en fait, ça sonne. Mmh. Voilà. C'est peut-être pas le son du filard habituel, peut-être, mais on n'entend pas les enfants. Donc c'est bon signe.
Oui, c'est déjà ça. Et donc sur les 3 ans, ils mêlent directement l'apprentissage du programme et de l'instrument en même temps et de la théorie.
C'est-à-dire que souvent les temps de pupitre servent à préparer les morceaux de l'orchestre, mm-hmm. et à faire cette partie théorie musicale, mais en pratique. Mm-hmm. Après, il y a aussi par exemple, c'est important que chaque enfant, dans les arrangements qu'on propose, ait aussi à un moment donné la mélodie et des choses sympathiques, parce que si on n'a que des temps à marquer, par exemple si on est tuba et qu'on n'a que des temps à marquer, c'est difficile de montrer aux parents, regardez, j'apprends un instrument, poum, poum, poum. Mm-hmm. Voilà. Donc en fait, souvent en travail par pupitre, on donne aussi des morceaux spécifiques à chaque enfant qui leur permet aussi de s'épanouir et de pouvoir montrer aux copains, aux cousins.
Et il y a des étapes au cours de ces 3 ans, comme des concerts, etc., où c'est un achèvement au bout des 3 ans, où ils peuvent avoir une représentation ou pas nécessairement?
Alors en fait, les concerts, c'est au moins tous les 3 mois.
Ah oui.
Voilà. Le premier concert, en général, c'est pour l'inauguration du projet. Mm-hmm. Parfois, les enfants ont 2 séances derrière eux et on les met déjà sur scène. En fait, c'est important, ces moments de concert, puisque ça a plusieurs vertus déjà. C'est le partage avec les familles. Mm-hmm. Ça permet aussi aux familles de s'emparer du projet. Mais c'est aussi le moment où les enfants se nourrissent des applaudissements. Mmh. Et c'est aussi le moment où certains se disent « j'aurais dû travailler ». Puisque quand on est sur scène et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est pas très confortable. Donc en fait, ça c'est partie intégrante de la pédagogie des orchestres-écoles. Et il y a des orchestres-écoles qui font 10 concerts par an. La moyenne, c'est plutôt un par période, c'est-à-dire à peu près 3 concerts par an, mais voilà, tout est possible.
D'accord. Et en général, les familles sont plutôt impactées. Est-ce que vous avez des retours avec, par exemple, des frères et sœurs qui commencent la musique ou autre ?
Oui. En fait, souvent, quand il y a un orchestre à l'école, déjà dans une école, quand la cohorte se termine, on commence avec une autre cohorte. Mmh. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait plusieurs cohortes en même temps. C'est-à-dire, par exemple, on ouvre un CE2 une année. Quand le CE2 passe en CE1, en CM1, on ouvre un autre CE2 pour qu'il y ait un cycle permanent. Donc, souvent, on voit... C'est vrai que la première fois qu'on met un orchestre dans une école, parfois, il faut convaincre les parents, c'est difficile. Mais après, ça vient tout seul.
Et au niveau du ressenti des élèves, donc, qu'est-ce que vous diriez pour eux, ce que leur musique leur apporte ? En plus donc, d'une pratique musicale, etc., est-ce que vous diriez que la musique a des bienfaits autres sur leur vie quotidienne, etc.
Oh oui, l'orchestre école a beaucoup de répercussions sur l'enfant. D'abord, je le disais, c'est la confiance en soi. C'est de se sentir respecté. C'est de se sentir pris en compte, parce que dans le système scolaire, un institut se retrouve devant 30 élèves. Et c'est difficile d'avoir une approche très, très personnalisée avec chaque enfant. Donc, ce projet le permet. Mais c'est aussi, et avant tout, une grande aventure humaine. Parce qu'en fait, ça devient une famille, cet orchestre. D'ailleurs, on le voit quand on remet les instruments après le dernier concert. Ils sont tous en larmes. Et on a souvent des témoignages d'anciens élèves qu'on retrouve. Ça m'est arrivé l'autre jour dans un train à Nice. Il y en a un jeune homme qui est venu me voir en me disant « Mais je vous ai entendu parler d'orchestre à l'école. » Moi, j'ai fait orchestre à l'école. J'ai adoré. Et il me disait « Mais on se revoit tout le temps avec les copains de la classe. On continue de se voir. » Et ça faisait 10 ans qu'il avait fini orchestre à l'école. Donc, c'est une vraie aventure humaine qui laisse personne sur le côté. Et ça, c'est important. Après, c'est des enfants qui se sentent capables de réussir. Donc... Voilà, ça a beaucoup d'impact à la fois sur le bien-être de l'enfant, sur ses capacités scolaires et en fait, le fait de découvrir aussi des lieux, des salles, ils découvrent des métiers aussi. Mm-hmm. On a aussi des anciens qui deviennent soit musiciens professionnels, on a une compositrice. Cette semaine, on a entendu qu'il y avait une jeune luthière qui s'est installée du côté de Soissons et elle avait fait orchestre à l'école. Elle n'aurait probablement pas connu ce métier sans cette aventure. Donc en fait, il y a des répercussions un peu dans tous les sens. Mais au minimum, c'est un moyen de passer des bons moments à l'école et de se faire plein de copains fidèles.
Une très belle initiative. Donc aujourd'hui, il y a combien d'orchestres en France qui sont actifs, on pourrait dire ?
Alors aujourd'hui, c'est plus de 1600 classes orchestres. Mm-hmm. On est présent dans 100 départements, c'est-à-dire tous les départements métropolitains, mais aussi tous les DROMCOM. Mm-hmm. Voilà, donc on est aussi présent en Nouvelle-Calédonie. On est un petit peu partout. Et en fait, ça représente aujourd'hui 45 000 enfants qui actuellement font orchestre à l'école dans les écoles en France. Mais si on prend depuis le début, c'est plus de 165 000 enfants qui sont passés par le dispositif.
Waouh, incroyable. Et on voit aussi sur votre site que vous ne vous limitez pas aux orchestres seulement à l'école, mais vous proposez également d'autres initiatives comme des visites gratuites ou assister à des répétitions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces activités qui sont peut-être parallèles ?
Alors, ce n'est pas complètement parallèle. C'est à destination des orchestres à l'école. Mm-hmm. Parce qu'on part du principe que le parcours musical, il y a un parcours spectateur aussi. Et si on veut qu'ils découvrent, c'est en voyant aussi les musiciens pros jouer ou de visiter des musées, ou visiter l'opéra. les coulisses. C'est aussi une façon pour eux d'apprendre aussi tous les métiers. Mais c'est des activités qu'on propose aux orchestres quand ils viennent, par exemple, à Paris. On leur dit, on essaye toujours de leur négocier une visite quelque part ou d'assister à une répétition de l'orchestre philharmonique, enfin des choses comme ça.
D'accord. Et donc, c'est plutôt centralisé à Paris sur ces activités-là ou c'est plutôt, ça peut être réparti partout et
Celles-là, elles sont plutôt... en général, c'est plus quand les orchestres viennent sur Paris et là, il y a un gros vivier. Mais en revanche, je vous l'ai dit, chaque projet est un projet territorial. Donc, évidemment, chaque orchestre va aussi d'abord aller visiter les lieux autour de chez eux. Mais ça, ils n'ont pas besoin de l'association pour ça.
D'accord. Et alors, quels sont les prochains grands défis de l'association et est-ce qu'il y a des possibilités pour étendre les projets encore?
Alors, en fait, nous, on répond à la demande. Et on a, pour l'instant, on arrive toujours à accompagner tous les porteurs de projets qui souhaitent monter des orchestres. Nous, notre défi, c'est de toujours trouver les fonds pour que ça fonctionne. C'est aussi en fonction des aléas politiques, des différentes réformes, de toujours faire en sorte que le projet Orchestre École s'intègre bien dans les réformes qui sont mises en place. Que tous les parlementaires se souviennent bien que ça existe. Donc là, par exemple, hier, on a allé déposer des enveloppes pour chaque député, chaque sénateur, pour leur rappeler ce que c'est que ce dispositif. Et on rencontre beaucoup d'institutionnels. Après, le défi auquel on va être confronté, c'est qu'en fait, il y a des grosses restrictions budgétaires qui s'annoncent. Et donc, on espère qu'on va garder nos subventions publiques, sachant que c'est la moitié de notre budget. L'autre moitié, on va le chercher dans des fondations privées ou par des opérations de levée de fonds. Et donc, on espère qu'on va pouvoir garder ces fonds publics parce que ça serait difficile de poursuivre le même rythme sans celle-là. Et aussi parce que chaque orchestre à l'école, de notre côté, on apporte que la moitié, le financement de la moitié du parc instrumental. Mais il faut trouver l'autre moitié. Et puis après, il faut surtout payer les professeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement des orchestres. Et ce fonctionnement, il est assuré par les collectivités publiques. Donc, ça va être la commune, la communauté de communes, le département. Enfin, il y a plusieurs montages possibles. Et là aussi, les baisses de financement public, les restrictions budgétaires, nous inquiètent un petit peu. On commence à voir quelques écoles de musique qui font faillite. Donc... ça dépend aussi de qui nous gouvernera.
Et donc, quelle est votre plus grande fierté pour cette association et ce dispositif?
Mais en fait, c'est déjà d'être parti de rien. Il faut savoir qu'au départ, quand on a lancé Orchestre à l'école, on n'était même pas reçu quand on demandait un rendez-vous dans les ministères. On nous ignorait complètement, c'était le privé, c'était des marchands d'instruments qui allaient se faire de l'argent sur le dos des enfants. Et donc, en fait, il a fallu combattre tout le monde, et les conservatoires, parce qu'ils avaient peur qu'on fasse fermer leur classe individuelle si on prouvait qu'on pouvait faire de la musique en collectif. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces fabricants d'instruments qui s'imaginent qu'on peut faire de la musique sans faire du solfège avant? Enfin, voilà. On a eu beaucoup, beaucoup de freins de tous les côtés. Et c'est un gros combat. Et je pense que ma plus grande fierté, c'est de constater qu'aujourd'hui, c'est un dispositif institutionnellement reconnu. On reconnaît aussi la valeur de notre modèle. Parce qu'en fait, il y a une tentation, toujours, c'est de se dire on fait un modèle où on pilote tout. Et nous, on a toujours dit on veut faire un modèle où on aide les projets locaux, parce que chaque projet doit garder son identité de territoire. On ne fait pas le même projet au fin fond de la Creuse et dans une grande ville. On doit tenir compte aussi des acteurs qui existent sur chaque territoire, et donc ça donne une couleur différente à chaque orchestre. On doit tenir compte des contraintes. Je vous donne des exemples bêtes, mais un orchestre à l'école vraiment très grande ruralité, on ne va pas s'amuser à mettre des contrebasses et des violoncelles parce que les enfants prennent le quart le soir. Et ils ne peuvent pas. Donc c'est, ça va aussi que chaque orchestre à l'école est vraiment un projet unique. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que finalement, demain, notre association peut disparaître. tous les orchestres à école qui sont mis en place pourront continuer de vivre. Donc ça, c'est chouette.
Mmh. Un beau projet. Donc on arrive à la fin de cet épisode et on termine toujours par une recommandation. Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez une recommandation en lien avec le sujet, que ce soit cinématographique, littéraire ou autre?
Là en fait, en novembre, il y a un film qui sort en France qui s'appelle Enfant phare. Et notre association est partenaire de ce film. C'est un film qui ne parle pas d'orchestre à l'école, mais qui parle beaucoup de toutes les valeurs qu'on prône. Et c'est à la fois dans le monde de la musique classique, à la fois dans le monde des fanfares et des harmonies dans le nord de la France. Et c'est la rencontre de ces deux univers. Et c'est un film qui est très subtil, qui n'est pas du tout caricatural. Et en fait, ça nous correspond bien. Donc voilà, je conseille le film en fanfare. On a eu l'occasion de le voir en avant-première et c'est vraiment un très très beau film.
Merci pour cette recommandation.
D'ailleurs, on va avoir plusieurs orchestres à l'école partout en France qui l'ont fait programmer dans leur cinéma local et qui vont jouer en première partie.
Incroyable. Merci pour la recommandation, on ira le voir. Merci beaucoup d'être venu ici et bravo pour cette initiative.
Merci à vous.
Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Dive In With Me est une émission de la Fondation Aimée soutenue par la Fondation André Loge que nous remercions. Merci également à Radio Ara de nous permettre de diffuser cette émission et de nous soutenir dans cette aventure. Merci à Taipan pour le magnifique jingle. Vous pouvez réécouter Dive In With Me sur toutes les plateformes de streaming et une fois par mois sur les ondes de la Radio Ara à partir du 16 octobre. À bientôt.